RMC, Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Poulidor en slovaque, ça se dit Sagan, Peter Sagan, encore deuxième de la 16e étape du Tour de France, 5 fois deuxième sur ce tour. Il a le maillot vert bien accroché sur les épaules, mais la victoire d'étape est pour l'Espagnol Ruben Plaza Molina. Cyril Guimard est avec nous dans un quart d'heure. Ce sont les héros français du week-end. Les volleyeurs de l'équipe de France remportent leur premier sacre mondial, vainqueurs de la Ligue mondiale. Trois d'entre eux seront en studio avec nous à 18h30. Ça ne peut pas sourire partout non plus. L'équipe de France de Coupe Davis sortie en quart de finale par la Grande-Bretagne, les langues se délient. À la Fédération d'Escrime, ces petits règlements de compte entre faux amis après des championnats du monde en demi-teinte. Puis notez bien cette date, 26 février 2016. C'est ce jour-là que la FIFA aura un nouveau président pour remplacer Sepp Blatter. Michel Platini se donne 15 jours encore pour savoir s'il sera candidat ou pas. L'actu sport, c'est avec Martial Fernandez. Salut Martial.
Bonsoir Virginie, bonsoir à tous.
Et c'est un Espagnol donc qui gagne la 16e étape du Tour de France.
La troisième victoire espagnole sur ce tour. Cette fois c'est donc Ruben Plaza qui s'impose à Gap où on va retrouver Christophe Cessieux. Christophe Plaza, le plus fort ou le plus malin de la grande échappée du jour?
Le plus malin, plutôt pour Ruben Plaza, qui effectivement a réussi à saisir sa chance dans la montée de la dernière difficulté du jour. Ils étaient 23 échappés avec une vingtaine de minutes d'avance sur le peloton qui a laissé partir ces hommes-là. Et dans la montée, alors que Christophe Riblon, l'un des trois Français échappés, a tenté sa chance, eh bien il a été contré par Plaza, qui s'est ensuite échappé, qui a réussi à basculer au sommet du col de Mans avec une cinquantaine de secondes d'avance. C'était trop pour Peter Sagan qui, malgré ses qualités de descendeur extraordinaires, n'a pas réussi à combler le trou. Il termine à 30 secondes, mais véritablement impressionnante cette descente de Peter Sagan qui a montré toutes ses aptitudes de descendeur. Peter Sagan qui termine donc deuxième. Le premier Français, c'est Christophe Riblon qui termine à la sixième place. Autre descente à un autre échelon, celui du groupe Maillot Jaune, avec une attaque de Nibali, plus pour gagner quelques petites secondes, plus pour l'honneur, pourrait-on dire, pour l'Italien, vainqueur du tour sortant, mais qui, vous le savez, est très loin en général, à plus de 8 minutes. Il a réussi tout de même à terminer devant le maillot jaune avec une vingtaine de secondes d'avance. Un groupe maillot jaune avec une chute, là aussi, spectaculaire. Barguil qui a joué un jeu a bousculé, plus exactement, Geraint Thomas dans la descente. Geraint Thomas qui est tombé dans le fossé, mais plus de peur que de mal pour le coéquipier de Chris Froome qui s'est relevé, qui termine avec une trentaine de secondes de retard. Au classement général, Chris Froome est toujours en jaune devant Quintana à 3 minutes 10. La mauvaise nouvelle du jour, c'est Tony Galopin qui sort du top 10. Il est 11e ce soir. Il n'y a plus qu'un Français dans le top 10. C'est Warren Barguil, 10e, à 11 minutes 3 de Chris Froome.
Merci Christophe. Le premier Français de l'étape, c'est donc Christophe Riblon de l'équipe AG2R La Mondiale. Il termine 6e. Il était dans la grande échappée du jour, mais n'a pas pu aller chercher la victoire.
Il y a 2 ans, j'avais fait 2 déjà à Gap. Aujourd'hui, je fais 6, je crois. C'est comme ça, mais bon, c'est de bonne augure pour la suite. Après, fallait être devant. C'était pas évident, on était 22, j'étais tout seul. Je suis content de ma condition. J'ai deux heures à la mondiale, on a pris une petite claque dans les deux premières étapes des Pyrénées, mais depuis, on montre qu'on est venu ici et qu'on était en forme, qu'on était prêt, qu'on avait travaillé fort. Et maintenant, à nous de continuer sur cette bonne voie. Et je suis sûr que ça va sourire. Voilà.
Christophe Riblon avec Pierre-Yves Leroux, puis une chute dans la descente de la Rochette à quelques kilomètres de l'arrivée. Accrochage entre le Britannique Geraint Thomas, équipier de Christopher Froome, et le Français Warren Barguil. Barguil qui a tenu à s'excuser de son écart sur la route.
C'est pas fait exprès, hein, j'élimine pas des coureurs comme ça et je suis vraiment désolé. Tout le monde voulait être dans les premiers. À ce moment-là, j'étais devant Vanguard Rennes, il me passe de derrière, il me pousse de l'épaule. Et ouais, c'est ce qui fait que je freine pas de mon frein arrière et j'aurais pu vraiment toucher Geraint Thomas et ouais, c'est dommage.
Voilà, Warren Barguil qui maintenant est le premier Français du classement général à la 10e place. Il précède l'autre Français, Tony Galopin. Un abandon, mais pour la bonne cause, celui de Greg Van Avermaet qui avait gagné l'étape de Rodez. Il a quitté le tour ce matin, direction la Belgique. Pourquoi? Parce que sa femme doit accoucher. Et puis demain, Virginie, jour de repos avant d'attaquer les Alpes. Les 4 étapes très difficiles jusqu'à l'Alpe d'Huez samedi.
À la FIFA, une journée d'annonce, c'est un geste spectaculaire et assez drôle, faut bien le dire.
On a vu une liasse de billets aujourd'hui à la FIFA. C'était pas de la corruption, mais des billets lancés par un comédien britannique sur Sepp Blatter juste avant la conférence de presse. Le comédien qui, avec un brin d'humour, a déclaré « c'est pour la Coupe du Monde 2026 ». Sinon, on connaît enfin la date d'élection à la présidence de la FIFA. Ce sera le 26 février 2016. Décision ce matin lors d'un congrès extraordinaire. Et normalement, il n'y aura pas de coup fourré cette fois. La question a été posée plusieurs fois à Sepp Blatter. Sera-t-il candidat le 26 février prochain ?
Je ne serai pas candidat à cette élection. J'ai remis mon mandat à disposition. Il y aura prochainement un vote pour élire un nouveau président. J'insiste bien là-dessus. Je ne peux pas être ce nouveau président car je suis un vieux président. Je souhaite donc bonne chance à tous les candidats, y compris à Michel Platini.
Et c'est justement la question maintenant qu'on a la date de l'élection. Michel Platini, le patron de l'UEFA, sera-t-il candidat? Mohamed Bouafsi est en Suisse pour RMC Sport. Et Mohamed, tu as des précisions à ce sujet sur Platini?
Oui, puisqu'on a des informations sur l'état d'esprit du patron de l'UEFA. Il dispose d'une voix royale, mais il hésite. Voici les mots de l'un des proches de Michel Platini. L'ancien meneur de jeu de l'équipe de France va bientôt mettre fin au suspense qui règne autour de sa candidature pour la présidence de la FIFA. Le patron de l'UEFA va annoncer sa décision dans les 15 jours. Platini va encore réfléchir, malgré le soutien de 4 confédérations sur les 6 qui dirigent la FIFA. La légende du football français veut avoir la certitude que ces confédérations voteront pour lui. Il hésite enfin pour des raisons personnelles. Il veut rester proche du football et ne pas devenir un grand politicien. Platini sait qu'à la FIFA, il aurait un rôle semblable à celui d'un chef d'État. Il veut continuer à regarder des matchs de football et ne pas jouer les lobbyistes avec des pays, par exemple. C'est la principale crainte de l'ancien joueur des Bleus, même si son entourage et surtout des personnalités importantes du football lui disent de se lancer à l'assaut de la FIFA.
Malgré la situation en Grèce, il y a quand même des joueurs de foot français qui s'engagent là-bas.
Exemple, Anthony Le Talec, l'ancien joueur de Valenciennes, qui a signé hier soir pour Atromitos, club de première division grecque. Il a signé pour 2 saisons. La situation économique du pays n'apporte pas à première vue toutes les garanties. Est-ce que ça l'inquiète, Anthony Le Talec?
Non, moi ça m'inquiète pas. Avant tout, je suis venu ici pour le choix sportif. Après, c'est sûr qu'il y a le plan financier, mais après, on m'a dit que ça devrait aller. Surtout le club, quoi. Il a vraiment insisté là-dessus. Alors moi, il n'y aura aucun souci. Je comprends pas la tête. Après, j'ai eu quelques jours au téléphone. Voilà, c'est, ça paye en temps et en heure. Mais après, avec tous les problèmes qu'il y a eu là, ces derniers temps, ben, ouais, c'est sûr que j'ai posé la question. Mais j'ai tout mis dans le contrat, heureusement. Mais bon, ça devrait aller.
Anthony Le Talec avec Benoît Boutron.
RMC France Olympique.
Les volleyeurs français sont de retour en France, heureux mais forcément un peu fatigués.
Avec un vol toute la nuit avant d'atterrir à Roissy en fin de matinée, avec dans les mains le trophée de la Ligue mondiale, ce premier titre international dans l'histoire du volley français. Et ça, c'était l'accueil inhabituel, parce qu'en général, ils reviennent dans l'anonymat. Cette fois, quelques supporters, beaucoup de caméras à l'aéroport. Ce succès qui a mis les volleyeurs français en pleine lumière. Erwin Engapet, attaquant de cette équipe de France, est élu meilleur joueur de la compétition.
On est super surpris, mais on avait quand même senti au Brésil qu'on était suivi, les matchs par rapport aux réseaux sociaux et tout. Donc on l'avait senti. Après, bah, c'est aussi une première, donc c'est la première fois qu'on gagne. Donc voilà, les gens ils ont suivi, c'est bien, on est super heureux. C'est un groupe de potes qui kiffent et qui jouent ensemble, tout simplement.
Voilà, alors la notoriété c'est bien, mais il y avait quand même de l'argent à gagner. $1 million pour l'équipe. Ils vont en faire quoi de tout cet argent, Julien Richard?
Alors $1 million, ça fait environ 920 000 euros et même un peu plus avec leur long parcours. Ils ont aussi gagné des primes après le premier tour et le deuxième tour.
Prends pas tout pour nous.
Et non, ce ne sera pas que pour les poches d'Erwin Engapet et ses coéquipiers. Le pactole sera en fait partagé en gros à 70% pour les joueurs et le staff, à part égale, ce qui représente approximativement 32 000 euros par personne. Et les 30% restants, eh bien ce sera pour la fédération, soit environ 276 000 euros. Une bouffée d'air frais pour une fédération en pleine guerre interne qui n'a plus de président pour le moment, l'administrateur de la FFVB, Christian Chebassier.
Une partie qui va beaucoup nous aider, en tout cas, pour assainir notre situation financière. C'est un apport financier important qui va nous permettre certainement de développer le plan Ambition Féminine Partagée sans augmenter nos prix de licence.
Les dollars, en tout cas, ce n'était pas la priorité dans les têtes ce matin à Roissy, le central Kevin Leroux.
Le prestige, c'est la médaille, c'est la première place, quoi qu'il arrive. Donc après, des dollars, je ne sais pas ce qu'on va faire. On va sûrement les claquer ce soir, mais je ne sais pas encore. Mais le plus important, c'est la première place.
La première place, par exemple, à Rio, l'an prochain, hein, 100 millions de dollars, mais cette fois avec de l'or. L'or olympique autour du cou, c'est le rêve désormais de cette équipe de France.
Et on aura 3 volleyeurs de cette équipe de France avec nous dans un quart d'heure en studio. Antonin Rousier, Genia Grebennikov et Laurent Tilly, le coach. Des questions là sur une autre équipe de France pour qui ça va beaucoup moins bien, c'est l'équipe de France de Coupe Davis.
Il n'y avait pas grand monde pour les accueillir à leur retour. Pour gagner la Coupe Davis, faut-il changer des choses? Il manque un truc pour aller chercher les matchs décisifs. On l'a encore vu ce week-end avec la défaite face à la Grande-Bretagne. Les anciens, genre Yannick Noah ou Henri Lecomte, sont-ils la solution à tous les problèmes? Henri Lecomte ancien vainqueur de la Coupe Davis.
C'est pas si simple que ça. Vous savez, moi, quand j'étais joueur, l'ancienne génération, quand ils venaient me voir, je les regardais, je disais, écoutez, les gars, c'est pas le même tennis, voilà. Mais ça n'empêche que les conseils qu'ils ont pu nous donner, que ça soit, par exemple, Patrice Dominguez, qui était mon entraîneur, a été à plusieurs reprises de très, très bons conseils. Je crois qu'à un certain moment aussi, nous, on peut peut-être leur donner un petit plus, c'est juste ce petit plus, parce que le reste, ils le font très bien. Voilà, c'est cette folie, il faut avoir cette folie pour passer des obstacles par moments qui semblent peut-être insurmontables.
Henri Lecomte, joint par Camille Gelpi. Un chiffre, 250. Serena Williams commence sa 250e semaine à la place de numéro 1 mondial. Il n'y a que trois joueuses qui ont fait mieux. Steffi Graf, Martina Navratilova et Chris Evert. L'incident est clos entre Hugo Brie et la Fédération Française d'Escrime. L'entraîneur national de l'épée masculine a présenté ses excuses. Après sa sortie médiatique très offensive sur RMC Sport, excuse acceptée par Isabelle Lamour, la présidente de la Fédé. Et plus de mise à l'écart. Hugo Brie restera bien à son poste jusqu'aux Jeux Olympiques de Rio.
Et Hugo Brie sera en ligne avec nous à 18h45 sur RMC. Les rugbymen de l'équipe de France s'inquiètent.
Il y a quelque chose qui les turlupine. On se rassure, il n'y a pas d'état d'âme dans cette préparation pour la Coupe du Monde. Non, ce qui les embête, ce sont les deux jours à venir. Demain et mercredi, ils sont en stage à Tignes et le staff leur a concocté une sortie de 48 heures un peu mystérieuse sur le glacier. Et ça intrigue le talonneur Guillaume Guirado.
On essaye d'attaquer tout le monde pour en savoir un peu plus parce que c'est toujours délicat d'avoir un programme surprise. Donc voilà, on a 2-3 idées. L'intégralité, on ne le sait pas. Sachant qu'on a reçu des chaussures de montagne, donc on sait qu'on va grimper. Ce qui est logique, des gants, des lunettes. Donc on sait qu'on sera dans des conditions forcément extrêmes et qu'il fera assez froid. Ça va nous permettre aussi de couper avec les téléphones. Les jeunes joueurs aiment bien être sur les réseaux sociaux. Donc ça nous permettra de nous retrouver vraiment qu'entre nous et de profiter aussi de la nature.
Guillaume Guirado avec Laurent Depré, puis en hommage à Jules Bianchi, le pilote français de F1 décédé vendredi soir. Il n'y aura plus de numéro 17 pour les voitures engagées en championnat du monde de Formule 1. Décision de la FIA. Et les obsèques de Jules Bianchi, elles auront lieu demain matin à Nice.
Merci Martial, on te retrouve à 19h. Cyril Guimard nous attend à Gap dans une minute, à tout de suite.
RMC, Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Il est 18h18, c'est l'intégral tour sur RMC jusqu'à 21h. Vous nous appelez au 32-16 si vous voulez réagir à l'actualité sportive. On est avec Cyril Guimard qui est à Gap. Salut Cyril.
Oui, ben bonjour à tous.
Alors, ce vainqueur Ruben Plaza Molina, on l'attendait pas forcément là, hein, Cyril.
Ah non, ceux qui l'ont joué au pronostic,
ils ont gagné beaucoup d'argent
oui. Ce soir. Ben oui, puisque je vais le dire sous forme de plaisanterie, mais il devait y avoir que sa femme et ses enfants qui devaient savoir qu'il était sur le Tour de France. Autant que l'équipe Lamprey n'a pas particulièrement brillé, a été présente dans beaucoup de mouvements de course, mais Ruben Plaza, lui, il était aux abonnés absents, et puis aujourd'hui, il a branché sa ligne. Il a branché sa ligne, il a pris le bon wagon, il s'est dit, de toute façon, Sagan ne peut pas rater l'échappée du matin, l'échappée du départ, donc si je pars avec Peter, ben, Sagan pour moi, et c'est ce qu'il a fait. Et puis il a surtout su, dans la montée du col de Mans, placer une accélération au moment opportun. Il y avait eu première accélération de Riblon, qui avait bien étiré le reste de l'échappée, qu'il avait fait exploser l'échappée. Ça fait bien mal à tout le monde, et lui, hop, dans un petit trou de souris, il est parti sur la droite, et puis voilà, il a pris 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, et comme il avait des bonnes jambes, eh bien il a pris plus d'une minute, puisqu'au sommet, il passait avec, on va dire 55 secondes d'avance, eh bien c'est 55 secondes d'avance, malgré un grand show de Peter Sagan dans la descente, eh bien avec ses 55 secondes d'avance au sommet, il en gardera une trentaine à l'arrivée. Alors 30, c'était un petit peu moins, mais Sagan s'est un peu relevé quand il a vu qu'il pouvait pas revenir. C'est bien joué pour cet Espagnol qui va chercher là un très beau succès sur ce Tour de France. Lui qui est beaucoup plus équipier que leader.
Alors Cyril, tu as déjà commencé à parler de Peter Sagan parce que finalement, certes, Il n'a pas gagné l'étape, il finit encore deuxième pour la cinquième fois.
Quel mauvais coureur, toujours deuxième.
Mais, alors bon, déjà, c'est vrai que c'est déjà pas mal. En plus, il a le maillot vert et surtout, il a épaté absolument tout le monde avec sa descente. Là, hein. C'est impressionnant quand même ce qu'il fait.
Oui, il a fait un show absolument extraordinaire. Et puis, j'ai presque envie de dire merci à la production des images parce que ce qu'on a vu aujourd'hui, on ne l'aurait pas vu déjà à mon époque. Parce qu'il n'y avait pas assez de caméras, il n'y avait pas les moyens techniques qu'il y a aujourd'hui. Et c'est vrai que la descente de tous, hein, parce que Peter Sagan fait effectivement une superbe descente, mais si on prend Ruben Plaza, il perd que, allez, on va dire 20... moins de 25 secondes dans la descente. Mm-hmm. Ce qui veut dire que lui aussi a descendu très très vite, de façon moins spectaculaire. Alors c'est vrai que Peter Sagan, il s'est fait 2-3 chaleurs parce qu'il en rajoutait un petit peu. Quand je dis il en rajoutait, c'est pas péjoratif. Mais,
non, mais c'est pour le spectacle aussi, ça fait du bien, moi, je trouve, de voir un coureur comme ça.
Oui, tant qu'il
ça.
Tombe pas, quoi.
Voilà, tant qu'il tombe pas.
Tant qu'il tombe pas. Et puis derrière, les autres n'ont pas pu suivre. Et puis il y a eu aussi la descente du peloton avec les chutes auxquelles on a pu participer. Non, non, vraiment une très belle étape où le spectacle s'est fait sur les 20 derniers kilomètres. Le reste a été un petit peu insipide, mais le cyclisme, c'est ça. Hein, c'est comme dans le foot, hein, vous pouvez être à 0-0 à la 91e minute, il reste une minute à jouer et puis vous plantez, quoi. Et là, on se rappelle que ça a été un grand match, on a gagné, c'est formidable.
Et on se souvient que de ça, finalement.
Et alors, on se souvient du moment d'émotion et Sagan a fait passer de grands moments d'émotion.
Alors, par exemple, il a fait passer de grands moments d'émotion à Vincent qui nous appelle au 32-16. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Virginie, bonsoir Cyril.
Est-ce que vous avez apprécié cette attitude de Peter Sagan aujourd'hui ?
Mais c'est pas qu'aujourd'hui, c'est depuis presque le départ du Tour et surtout depuis 3 jours. Merci Monsieur Sagan, parce que ça fait déjà une semaine que le Tour est plié. Donc on regarde les étapes avec un mec qui se bat pour aller chercher le maillot vert en priorité.
Bah ça y est, il l'a Cyril, plié aujourd'hui. Hein.
Voilà, il l'a plié comme Cyril le disait, il va d'abord chercher le maillot vert et après... Eh bien, il se contente de ce qui reste, parce que c'est pas évident d'avoir 22 mecs contre lui aujourd'hui, parce qu'il était tout seul. Aujourd'hui, on pourrait lui reprocher de ne pas avoir levé le cul une fois. C'est le moment où Plaza part, mais est-ce qu'il peut y aller? Et puis là, il a fait vachement d'efforts. Mais merci, monsieur Sagan, merci pour cette descente. On voit l'ancien cyclocrossman. Je sais que Cyril aime bien le cyclocross, donc voilà, le style cyclocrossman.
Et VTT, hein,
et VTT en plus. Et en plus. Donc, moi qui suis passionné par ça, et oui, merci Monsieur Sagan de nous faire du spectacle depuis 3 jours et de nous donner envie de regarder le Tour, parce que sinon, il n'y a plus grand chose à regarder. Et puis, on aimerait bien un Français dans le même état d'esprit que lui. Et puis, il ne faut pas oublier son âge. Pour les classiques dans quelques années, avec la maturité, ben, c'est un très très grand coureur déjà, alors qu'il est très jeune. Donc, mais merci Monsieur Sagan.
Et merci Vincent d'avoir appelé le 32-16 pour rendre hommage à Peter Sagan.
Je vais modérer un petit peu ses propos, non pas pour contredire ce qu'il dit, mais s'il s'est retrouvé un petit peu seul dans la dernière ascension, c'est qu'il a un petit peu chambré dans la descente du col de Cabre, où il a déjà fait la descente à fond, et là beaucoup de coureurs sont venus à la hauteur en disant oh, tu joues à quoi. D'autant qu'en plus après il met une mine pour sortir à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée. Ça n'a pas plu à ses adversaires
qui lui ont dit, là, si tu veux y aller, tu vas tout seul.
Oui, mais il y a des rapports dans une échappée, on est ensemble, on se parle. Bon, il y a aussi, je veux dire, des règles du jeu. Et quand vous commencez à casser un groupe de tête comme ça par un petit côté un peu mytho, je veux dire, s'amuser à faire la descente. Il y a des coureurs qui sont obligés de suivre et qui se disent, mais attends, il nous fait prendre des risques alors qu'on n'en a pas besoin. Après, ils commencent à mener des mines. Donc après, ils l'ont laissé aller chercher pas mal de coups. Et c'est là qu'il perd l'étape pour moi. Parce que après, entre les deux cols, il y a déjà Peter Hansen qui sort, mais avant ça, il y a plusieurs coureurs qui ont attaqué et tout le monde a laissé Peter Sagan aller les chercher. Et s'il n'avait pas fait cette erreur dans la descente, il n'aurait pas eu besoin de faire une multitude d'efforts pour empêcher un contre de partir et il aurait été un petit peu plus frais dans l'ascension. Il aurait peut-être été chercher la gagne. On ne gagne pas par hasard, mais j'ai envie de dire, on ne perd pas tout à fait par hasard non plus.
Et puis Cyril, un dernier petit mot sur la chute spectaculaire de Geraint Thomas.
Heureusement,
il n'a rien. Hein, il est, tu me le confirmes, hein, il a passé la ligne d'arrivée.
Ça va très bien. Quand on lui demande son nom, il dit qu'il s'appelle Chris Froome, donc ça va.
Bah ça veut dire qu'il va gagner, donc du coup il est très content. Non mais parce que ça a été un petit peu bizarre ce moment où visiblement c'est Warren Barguil qui a été un peu poussé, qui lui à son tour a poussé Geraint Thomas. Bon, finalement tout va bien entre les deux hommes. Geraint Thomas a dit non mais je veux pas de sanction contre Warren Barguil. Heureusement.
Oui, non hein. Mais
manquait plus que ça. Oui, je sais.
Virginie, on est dans le feu de l'action, on est à fond, on se fait des chaleurs. On est sur un revêtement qui est tout sauf sécurisant parce qu'il est très bosselé, il est très granuleux. On a des virages avec, on a des pentes qui augmentent à l'entrée des virages. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous vous trouvez avec une puissance, avec, on va dire ce qu'on appelle le moteur additionnel, puisque la pente est un moteur additionnel, avec un moteur additionnel dans avant l'entrée des virages. Et si vous arrivez sur quelque chose d'un petit peu bosselé, eh bien, vous décrochez et vous perdez de l'adhérence. Et par voie de conséquence, l'efficacité du freinage. Et là, il semble que Warren Barguil n'ait pas pu venir véritablement chercher la trajectoire qu'il voulait prendre, enfin, qui était la trajectoire logique, bah, tout simplement parce qu'il y a un autre coureur qui se trouvait là. Il a compris qu'il était hors trajectoire et donc il était obligé de se mettre sur les freins à bloc. Bon, allez, on va pas rentrer dans les petites fautes techniques qui ont pu être faites. Et donc, il rentre dans le virage, il est parti pour aller à la chute, il le sait. Bon, elle ne sera pas grave parce que là où il va aller tomber, il va avoir des spectateurs qui, gentiment, s'étaient mis là pour arrêter les coureurs au cas où ils tombaient.
Pour faire les amortisseurs.
Les amortisseurs. Et puis, Geraint Thomas, qui est sur l'extérieur, qui lui est sur la bonne trajectoire, eh bien, Warren Barguil la coupe, mais il ne peut rien faire d'autre que de la couper. Donc, moyennant quoi, lui, il tombe pas. Et puis Geraint Thomas, lui, il nous fait une grande figure qu'on aime pas voir.
Ouais, non, mais il a pas fait exprès non plus.
Non, il a pas fait exprès. Moi, je me souviens avoir vu Bernard Hinault dans la descente du col de Porte dans le critérium du Dauphiné, alors qu'il était en tête avec 4 minutes plongées dans le ravin. On s'est pas occupé de savoir ce qu'il avait. Je suis descendu, je l'ai remonté, il est reparti. Et ben là, ça a été la même chose puisque 20 secondes après, il reprenait le vélo. On a craint le pire quand même. Hein.
Mais finalement, tout va bien. En plus, demain, tout le monde se repose. Enfin, pas toi, Cyril. Hein. Déjà, tu reviens à 19h avec Christophe Cessieux.
Demain, je ne me repose pas. Je vais chercher un vélo pour aller faire entre 2h et 3h de vélo pour maintenir ma condition physique pour aller jusque Champs-Élysées.
Voilà, avant l'Alpe d'Huez et tout ça. Merci beaucoup, Cyril.
Oui.
Et à demain, même heure, même endroit. Dans un instant, on va recevoir trois hommes en or, les volleyeurs de l'équipe de France. Deux volleyeurs et leur coach sont avec nous en studio après leur victoire en Ligue mondiale. À tout de suite.
RMC Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Il est 18h31, on est ensemble jusqu'à 21h dans l'Intégral Tour et les héros du week-end sont avec nous en studio.
RMC France Olympique.
Alors, Antonin Rouzier, bonsoir.
Bonsoir.
Zhenia Grebennikov, bonsoir.
Bonsoir.
Et Laurent Tilly, le coach des volleyeurs de l'équipe de France. Bonsoir.
Bonsoir.
Vainqueur de la Ligue mondiale, donc à Rio, pour la première fois de l'histoire de cette équipe de France. On vous dit bonsoir, on attend que les auditeurs nous appellent au 32-16 pour vous féliciter, pour vous poser des questions, pour vous demander comment vous avez fait aussi. Bon, d'abord, vous rentrez tout juste de Rio, là, la fête, le décalage horaire, vous êtes comment là?
Non, la fête, on n'a pas commencé encore. Non, on est trop sérieux.
Ah bon, c'est la voix là, non? Vraiment? Franchement?
Vous vous imaginez quand même qu'on est allé jouer une finale de World League avec nos bagages, prêts à partir après la cérémonie de clôture pour aller directement à l'aéroport pour prendre l'avion pour revenir sur Paris. Donc on n'a même pas eu le temps de fêter quoi que ce soit là-bas après notre titre.
Ah oui, effectivement, donc tout s'est enchaîné là. Et justement là, est-ce que dans votre tête, vous êtes comment? Vous réalisez où vous en êtes? Vous avez atterri vraiment ou... Pas encore.
Moi, je réalise pas encore, mais toute la journée, là, j'ai reçu des textos de félicitations. Je pense que là, la pression, elle commence à redescendre. Et là, je pense que je vais commencer à réaliser. Je pense que tout le groupe commence à réaliser qu'on a fait quelque chose de beau.
Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est quand même le premier titre mondial dans l'histoire de l'équipe de France de volley. Rien qu'en disant ces mots, ça doit quand même faire un peu bizarre. Il y a le cœur qui bat un peu.
Oui, Florentini. C'est surtout que c'est un titre qu'on est allé chercher au Brésil. On a éliminé les Brésiliens, donc du coup on s'est fait siffler tout le reste de la compétition. On a battu les champions du monde pour gagner ce titre, on a battu la Serbie. Non, c'est un parcours fantastique, en battant les meilleures équipes du monde, en partant de très loin, puisque c'est une compétition qui a commencé il y a 2 mois et demi. Les joueurs ont plaisanté, mais c'était vrai, dans l'ascenseur, on a 3 mois de stage et de compétition, et ils ont eu 3 jours de repos. Et donc là, on est vraiment... dans une bulle qui vient de pouf exploser avec un titre et on ne sait pas où on habite encore.
Parce que finalement, la finale, ça semblait presque facile, j'ai envie de dire, vu tout ce que vous avez traversé avant. À quel moment vous vous êtes dit dans cette finale, non mais ça y est, c'est bon, c'est pour nous là.
La finale, non, c'était pas si facile que ça. C'est vraiment qu'on a joué à un volet parfait, quoi. On a fait le match parfait et les Serbes n'ont rien pu faire. On était dans les consignes, on a fait tout ce qu'il fallait. Donc voilà, je pense qu'on mérite vraiment ce titre. On est allé le chercher. On a battu les vice-champions du monde, les champions du monde. On gagne en finale 3-0. Donc voilà, je pense qu'il y a rien à dire et on est fiers de ce qu'on a accompli. Ouais.
En plus, on va rappeler le parcours qui a quand même été semé d'embûches, puisque vous avez commencé dans le groupe 2, c'est ça. Ensuite, vous avez dû rejoindre le groupe élite, si je puis appeler ça comme ça, groupe 1, et pour aller finir par remporter ce Final Six. Donc quand on pense à ça, c'est un truc de dingue, quoi. Le nombre de matchs, le nombre de kilomètres,
Ah oui, mais c'est... En fait, là où l'équipe, les joueurs m'ont bluffé, c'est qu'on avait l'impression qu'ils avaient une carapace de concentration autour d'eux. Parce que sur la première phase, on gagne 12 matchs sur 12. Donc effectivement, en allant jouer en Corée, au Japon, en République tchèque, en France. Puis en France, on changeait de ville à chaque fois. Donc on faisait que 1000 km à chaque fois. Mais on fait 12 sur 12. Puis après, pour aller plus loin, on est obligé de faire un Final Four en Bulgarie, à Varna, coin perdu sur la côte de la mer Noire.
Vous avez découvert plein d'endroits.
Là, on tombe dans un village de vacances avec le club, piscine, discothèque, boisson à volté. On se dit, mais c'est quoi, c'est...
Oula, piège, piège.
Voilà, on fait quand même du haut niveau. On fait quand même du haut
dans mon lit, dans ma chambre, j'ai pas bougé.
On fait quand même du haut niveau. Bon, bref, on bat quand même l'Argentine. Et la Bulgarie en Bulgarie, une équipe qu'on n'avait jamais battue en compétition officielle devant 5000 spectateurs. De là, on nous dit, maintenant, vous allez à Rio. Le lendemain, on part, on prend l'avion. Donc, on fait Varna, Istanbul, Rome, Rio. On arrive à Rio, il nous manque 11 bagages sur 30. Les joueurs, ils se prêtent les t-shirts, on va s'entraîner.
Ouais, c'était Koh Lanta, quoi.
Voilà, c'est Koh Lanta.
Ah, l'hôtel était quand même en face de Copacabana. Donc
ça,
ça va. Puis ça donne des idées éventuellement pour l'année prochaine.
Tout à fait.
On a dit à bientôt au Corcovado.
Parce que c'est ça, le truc, ce qu'il faut se dire, parce que c'est quand même, excusez-moi, c'est quand même très compliqué le volet. Hein. Déjà, il va falloir expliquer à tous ceux qui vous félicitent, je pense notamment au président de la République, qui disent que vous êtes champion du monde. Donc, il faut déjà expliquer pourquoi vous ne l'êtes pas. Mais c'est quand même pas facile à comprendre. Et pourquoi vous n'êtes pas encore qualifié pour les Jeux, alors que vous venez de battre tous les meilleurs et de gagner 17 matchs sur 18.
La bonne analyse, c'est de comparer en fait la Ligue mondiale au tournoi destination. Qu'est-ce que c'est le tournoi destination ? Si vous êtes néophyte, c'est pas un championnat du monde, c'est pas un championnat d'Europe, mais c'est un tournoi destination. Ah, ça c'est une belle compétition. Ben, la Ligue mondiale, c'est exactement pareil. Sauf que c'est un peu moins vieux, ça a que 25 ans. Et sauf que c'est sur le monde entier, puisque ça va du Japon à l'Australie en passant par le Canada, les États-Unis, le Brésil et l'Europe. Donc voilà, l'idée c'est... La Ligue mondiale, c'est un tournoi destination mondial de mai à début juillet, mi-juillet. Et après, il y a les champions du monde, etc. Mais ce titre de World League, de Ligue mondiale, c'est aussi difficile, voire plus difficile qu'un championnat du monde.
Et à quel moment vous avez senti le regard des Brésiliens, des Polonais changer vis-à-vis de vous, de votre équipe de France ?
Moi, je pense que c'est lors du premier match contre le Brésil, quand on les bat devant leur public 3-1. Je pense qu'il y a eu vraiment un déclic et le regard des gens a changé. Je pense que les équipes se méfiaient beaucoup plus de nous et je pense qu'ils ils savaient qu'on allait faire quelque chose de bien dans cette compétition.
Alors Génia, racontez-nous un petit peu d'ailleurs, est-ce qu'il y avait 15 000 spectateurs contre vous, je crois, hein. C'est à peu près ça au Brésil quand...
À peu près, ouais. À peu près, ouais. Ils étaient tous contre nous dès qu'on a éliminé le Brésil de la poule, de la compétition.
On n'a pas fait exprès.
Ils ne se sont pas qualifiés.
Excusez-nous.
C'est vrai que tout le monde nous huait, après tout le monde était contre nous. Ouais.
Et donc là, voilà, ça change, on commence à passer à un statut de favori presque, en tout cas d'équipe surprise qui peut aller au bout.
Oui, ouais, c'est clair que maintenant on va être beaucoup plus attendu. Après, on verra comment ça se passe, mais nous, on n'a peur de personne maintenant, c'est simple, hein. on est là, on a confiance en nous, voilà, donc on verra comment ça se passe.
Alors, il y a Eric qui nous appelle au 32-16. Bonsoir Eric.
Bonsoir, bonjour tout le monde.
Bonjour.
Nos héros vous écoutent, Eric.
Ah, tout d'abord, déjà, moi, je voulais leur dire à toute l'équipe de France qu'on était, enfin, moi, en tant que volleyeur, très fier de ce qu'ils avaient fait. Vraiment, les travaux, comme vous dites tout à l'heure, les travaux un peu d'Hercule, hein, où 17 matchs sur 18 pour gagner. Le tournoi à destination du volley.
Oui.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi j'aurais une question à poser un peu à vos invités, c'est de savoir un peu aujourd'hui qu'est-ce qu'ils espéraient un peu de ce résultat en termes d'image pour notre sport, parce qu'aujourd'hui, quand on prend un journal sportif français que je ne citerai pas, mais vous savez de quel je parle, on n'avait rien en première page et je trouve ça aujourd'hui un peu triste, voire déplorable pour notre sport. Donc c'est une de mes premières questions à ce sujet-là déjà.
Merci beaucoup Eric d'avoir posé votre question au 32-16. Qui veut répondre?
Ouais, moi,
Laurent Thilly.
Oui, moi je pense que c'est un sujet qu'on doit cultiver, qu'on doit travailler. C'est comme le paysan qui va travailler son champ, ça pousse pas du premier coup et il faut être patient, il faut mettre des bonnes graines, il faut mettre des bons résultats, il faut aller vers les médias, il faut que les médias s'intéressent à nous. Je crois qu'il y a quand même, on a été choqués et tous étonnés agréablement quand on est arrivé à Roissy de voir autant de médias à l'arrivée avec un comité d'accueil, vraiment un comité d'accueil et non pas une caméra. On est là aujourd'hui chez vous à RMC, donc ça, je pense que c'est petit à petit. Il faut pas vouloir révolutionner. Je sais qu'on est français et qu'on aime bien la révolution, mais je pense qu'il faut plutôt cultiver. Et je pense que voilà, il y a un bon mouvement qui s'amorce. La Ligue nationale de volleyball aussi a signé un partenariat avec l'équipe 21. Nous, on passe avec beIN Sport. On est suivi, l'équipe nous suit, le journal l'équipe, puisqu'il s'agit de ce journal, nous suit quand même régulièrement et beaucoup.
Passé quelque chose aussi là, de toute façon. Quand on a un titre, ça peut changer beaucoup de choses.
Les joueurs sont créés une identité. Une identité, on a eu le titre de l'équipe la plus cool. La plus cool parce que.
Oui, justement, je voulais vous en parler aussi.
C'est génial, le plus cool.
Non, parce que, par exemple, il y a toujours des photos officielles, mais
Vôtres, elles sont beaucoup plus drôles.
Voilà, si vous avez eu l'occasion de les voir.
Bien sûr.
On va dire,
c'est-à-dire qu'en gros, à chaque match, vous faites une photo différente.
C'est tout ça. Non.
Donc, mais alors justement, cette photo qui est en rapport avec l'équipe contre la laquelle vous jouez, vous faites quoi? Vous faites une réunion avant, un petit brainstorming, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a des engueulades, comment ça se passe?
Exactement, chacun donne son idée et puis après on choisit la meilleure. Et je pense que le summum était à Rio.
Ouais, c'était le Corcovado. Kevin qui faisait le Corcovado.
Elle était magique celle-là.
C'est-à-dire que moi, pendant que je donne mes consignes de match, eux, ils pensent à la photo officielle. Voilà. C'est un peu.
Finalement, en fait, le truc, c'est de pas écouter. Quoi.
C'est la force de notre équipe. On n'écoute pas le coach.
Voilà, c'est un peu ça.
Bon, mais alors, justement, parce que il y a trois ans, vous avez pris cette équipe. Vous auriez pas dit que la Ligue mondiale, là, c'était pour maintenant?
On l'avait prévu, on l'avait prédit, mais on pensait peut-être pas que ça allait arriver aussi vite. Par contre, c'est vrai qu'il y a trois ans, quand j'ai repris l'équipe, j'ai voulu de suite inscrire l'équipe dans le projet Rio. Parce que je pense qu'une qualification olympique, c'est tellement difficile qu'il faut se préparer mentalement, physiquement et techniquement sur du long terme. Et qu'on peut pas penser à une qualification l'année de la qualification. Et je crois que les joueurs l'ont compris. Et du coup, on a instauré beaucoup de travail, beaucoup d'attitude, et beaucoup d'entraînement, peu de vacances et tout le monde a joué le jeu. Et je crois qu'on mettre des règles puis une certaine liberté, et surtout se battre avec nos armes. C'est-à-dire qu'on veut jouer comme des Français et non pas comme des Américains ou des Russes ou des Italiens. On joue avec nos forces, nos valeurs, notre décontraction aussi, mais c'est ce qui fait aussi notre force.
Mais c'est aussi ça, c'est aussi ce qui vous fait accepter, j'imagine, la discipline quand on vous dit il y a pas de vacances, il y a rien et tout, mais bon, vous allez quand même pouvoir vous marrer un peu pendant que vous bossez.
Non, c'est sûr, surtout que notre groupe vit bien, tout le monde s'entend super bien.
Attention, le groupe vit bien, on le dit plus. Ouais, hein. On fait pas les footballeurs. Là. C'est pas parce que vous avez un titre mondial qu'il faut faire le footballeur directement.
Non, mais c'est vrai qu'on s'entend super bien, donc ça fait passer le temps un peu plus vite.
Et maintenant, donc l'objectif, on a dit Rio 2016, donc il va falloir être un peu didactique. Comment on fait pour y aller là?
Ah, bon, Génia, tu expliques ou j'explique?
Faut écouter les consignes du coach.
C'est pas moi qui parle.
Ah non, pas deux phrases comme ça.
Non, en gros, il y a une Coupe du Monde, on ne sera pas présent là bientôt. Il y a deux équipes qui seront qualifiées, il faut que ça soit des Européens, pour nous arranger. Ensuite, en janvier, il y a un tournoi de 8 équipes européennes, les 8 meilleures équipes européennes. Il y a une équipe qui est qualifiée sur ce tournoi, qui sera directement au JO. Les deuxième et troisième iront dans un autre tournoi de qualification au Japon. Et les deux premiers de ce tournoi de qualification au Japon seront qualifiés au JO. Ah,
c'est fort.
Bravo. Bon. C'est bon.
Voilà, c'est balèze, c'est balèze. Je vous souhaitais
c'est pas moi qui fais les règles.
Non, mais je sais bien. Mais donc, il y a encore un peu de chemin, mais vous allez y arriver. Maintenant, vous avez prouvé que vous pouvez battre tout le monde. Dernière petite question. Il y a des handballeurs qui, en 95, je crois, c'était appelé les Barjots. Ils sont gardés on s'en souvient encore aujourd'hui. Donc, vous, Yavbou, là.
C'est la team Yavbou. Bouillave, qui veut dire bouillave, qui veut dire écraser son adversaire. Détruire son adversaire.
Et donc, vous voulez garder ça, là? On garde ça jusqu'au bout?
C'est notre marque de fabrique. Ouais.
Bah, ils se l'ont trouvé et c'est vrai que dès qu'on... Moi, dans mon coaching, si je dis les valeurs de la team Yavbou, je vois les épaules qui se redressent, le regard qui s'affûte, parce que ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on respecte personne sur le terrain, on respecte pas l'adversaire s'il est plus fort que nous, plus grand, plus gros, plus fort. Et c'est des valeurs qui sont vraiment importantes si on veut gagner des titres.
Merci beaucoup à tous les trois, Génia, Antonin, Laurent Tilly, d'être venus sur RMC et bravo encore.
Johan Jomel n'est pas venu. Je suis vraiment désolé. Parce qu'apparemment, vous adorez Johan Jomel. On m'a dit ça.
Bon, bah, ok. Bah, moi aussi, je suis dégoûtée. Alors, je sais pas.
C'est ce qu'on m'a dit, en tout cas.
D'accord, c'est des bruits qui courent. On va faire une photo quand même. Alors, si on doit faire une photo là, maintenant, avec le titre, là, on a fait comment?
Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire, Diania? Drôle, je sais pas.
Bon, vous nous en faites une et vous nous la postez avec RMC Live sur les réseaux sociaux, d'accord?
Ah ouais, carrément.
Allez,
carrément.
Vous nous en faites une pour nous. Allez, merci beaucoup.
On va mettre le coach dedans.
Ah bah oui, il faut. Merci beaucoup à tous les trois. On va aussi parler des choses qui fâchent parce qu'il n'y a pas que des équipes de France qui marchent. On va parler d'escrime et de tennis dans un instant sur RMC. À tout de suite.
RMC, Intégral Tour, Virginie Fulpin.
18h48, c'est l'intégral tour jusqu'à 21h sur RMC et c'est le moment de parler de tennis et d'escrime, des choses qui fâchent un petit peu en ce moment. Psychodrame à la Fédération d'escrime. Les championnats du monde viennent de se terminer avec un bilan un petit peu décevant. 3 médailles, 2 en argent, 1 en bronze. Mais le problème, c'est surtout qu'il y a des petites fâcheries entre amis. Hugo Brie, l'entraîneur des épéistes, s'est exprimé ce week-end pour dire qu'il allait quitter ses fonctions après Rio parce que certains à la Fédé lui mettaient des bâtons dans les roues. La présidente de la Fédération, Isabelle Lamour, a entamé une procédure disciplinaire pour qu'il parte tout de suite. Ça, c'était dans le feu de l'action. Aujourd'hui, les mondiaux sont finis. On parle à tête reposée. Hugo Brie est en ligne avec nous. Bonsoir, Hugues.
Bonsoir.
Alors, tu as décidé de présenter tes excuses à la Fédération.
Oui, j'ai discuté avec la présidente. On a trouvé un moment où on s'est posé, on a discuté et je lui ai exprimé certaines choses, et notamment que je regrettais d'avoir tenu des propos comme ça qui étaient peut-être inopportuns. En tout cas, le timing de ces propos n'était pas bon. Je l'ai reconnu et on m'a demandé de faire des excuses auprès des médias sur lesquels je m'étais exprimé. Donc c'est ce que j'ai fait dès ce matin. Je regrette d'avoir heurté certaines personnes. Mon but, c'était pas de fragiliser une fédération ou de fragiliser une présidente. Par rapport à ça, je tiens à présenter mes excuses à la présidente tout d'abord et puis à tous les gens qui travaillent à la fédération et qui bossent depuis 3 ans pour remonter ça. Et donc voilà, après, je pense que j'ai fauté là-dessus. J'ai été peut-être un peu égoïste là-dessus. C'était avant tout pour le bien de mon groupe et le bien de mon équipe. Mais c'était pas la bonne méthode. Donc par rapport à ça, je maintiens mes excuses et je regrette que ça soit passé comme ça.
Qu'est-ce que tu regrettes le plus finalement dans cette histoire? C'est surtout le timing, c'est surtout les mots employés.
Le timing, parce que le timing. Après, depuis un petit moment, c'est dur ce que l'on vit au quotidien. Il y a un petit mal-être, c'est vrai. Et il y a énormément de pression et puis à un moment donné, il a fallu que ça lâche, quoi. Et c'était pas le bon truc. Donc moi, ce que je regrette, plus le timing, c'est ce qui m'est reproché, le timing, parce que le Chopin du Monde n'était pas encore fini. Et moi, je pensais qu'il était fini pour moi. J'espère que j'ai pas fait du mal aux athlètes qui n'avaient pas fini. À l'encadrement, je leur ai tenu aussi des excuses. Mais voilà, quoi, c'est plutôt ça. Après, je regrette que tout ça se passe et j'ai envie de passer à autre chose. C'est difficile et j'ai vraiment envie de maintenant de voir devant. J'avais aussi de me poser et de dire, voilà, il reste un an et je sais où je vais. J'avais besoin aussi d'une chronologie assez carrée, quoi. Donc j'ai peut-être précipité ça. Et puis voilà, maintenant je sais où je vais. Pour moi, aujourd'hui, c'est Rio dans la tête et Rio avec ses athlètes. Voilà, la saison est préparée depuis longtemps. J'ai encore regardé ça hier soir. On a du travail et il y a plein de choses de bon à venir et il y a plein de choses à aller chercher. Donc c'est vraiment là-dedans, quoi, que j'ai envie de voir maintenant. Je veux vraiment finir ma mission et je pense avec mes athlètes, j'ai des grandes choses à aller chercher. Donc on va œuvrer pour ça et puis la fédération, on doit être unis, on doit être ensemble pour être fort. Donc on va essayer de faire tout ça et on va essayer d'oublier cet épisode malheureux et rebondir là-dessus et tous ensemble on sera encore plus fort.
Donc tu nous confirmes que tu seras bien à Rio avec l'équipe de France d'épée.
Je l'espère. Aujourd'hui on m'a demandé de présenter des excuses. J'ai fait hier devant elle. Je le fais maintenant devant les médias. C'était un positionnement à avoir. J'espère que j'y serai. En tout cas, je ferai tout pour y être et pour répondre aux exigences qu'on m'a demandé, c'est-à-dire de porter haut et fièrement les couleurs de la France et être derrière mon équipe et travailler dur pour arriver à ce qu'on s'était dit tous ensemble. Donc j'espère être à Rio. Je le souhaite et en tout cas, si j'y suis, je serai pas pour rien.
D'accord, merci beaucoup Hugo Brie pour toutes ces précisions aujourd'hui. Bon retour puisque tu es encore à Moscou où se sont terminés les championnats du monde d'escrime hier et à très bientôt sur l'antenne d'RMC.
Merci.
Et ça ne va pas très bien non plus au tennis. Hein. L'équipe de France de Coupe Davis a été sortie par la Grande-Bretagne en quart de finale hier. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions. Eric Salio vient de rentrer de Londres. Bonsoir Eric.
Bonsoir Virginie.
Bon, alors après cette nouvelle déconvenue, les langues commencent à se délier, on dirait en tout cas un petit peu en coulisses. D'abord, comment cette équipe de France a réagi après la défaite de Gilles Simon face à Andy Murray?
Il n'y avait pas d'effondrement, c'était de la frustration parce qu'ils avaient tous l'impression d'avoir perdu une deuxième finale en 8 mois. Parce que quand on regarde le tableau, effectivement, il n'y a plus aucun top 10 dans les 4 équipes qui... Enfin si, Andy Murray, mais bon, il aurait été... Ouais, il y avait une route dégagée, pas un tapis rouge, mais une belle route. Donc une occasion de perdu de plus pour cette génération. Et des questions qui se posent en interne, parce que ça fait 3 défaites, Argentine, Suisse... Grande-Bretagne, avec, bon, il y a eu des choses qui sont pas agréables à dire peut-être, mais des mauvais choix, notamment face aux Suisses. On se souvient, il fallait-il gagner de Tsonga. Là, le double, malheureusement, il avait misé sur Arnaud Clément avait misé sur Nicolas Mahut et Joao Tsonga, ça n'a pas fonctionné. Et en interne, on se dit, peut-être qu'il faudrait adjoindre un ancien glorieux pour remotiver tout ça.
C'est-à-dire qu'on remet clairement en cause le capitanat d'Arnaud Clément.
Je crois qu'ils ont il considère peut-être qu'il y a, il y a besoin d'un petit coup de main, quoi, pour redonner du peps à cette équipe. Alors tout de suite, on pense à Yannick Noah parce qu'il avait parlé après la finale de Lille et qu'il s'était porté candidat.
Oui, il avait dit si on a besoin de moi, faut qu'on vienne me chercher.
Que tout le monde soit d'accord. Mais dans quelles conditions, comment on l'amène, Yann, en adjoint de Arnaud Clément, ça me paraît compliqué à envisager. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir un débriefing, à mon avis, très solide avec le président, avec les joueurs, avec la DTN, puisque la DTN c'est quand même un rôle important. Donc Arnaud Di Pasquale, Arnaud Clément, lui, il a envie de continuer, mais c'est vrai qu'il va devoir présenter à des solutions parce que on a d'excellents joueurs, mais on n'y arrive pas. On est peut-être
alors,
trop
Eric,
homogène.
Est-ce qu'on a d'excellents joueurs ou est-ce qu'on n'a pas de très bons joueurs et pas d'excellents joueurs? Parce que, par exemple, Andy Murray est un excellent joueur. Il est tout seul, mais un excellent joueur,
joueur,
ça suffit.
Et on se rend compte, Virginie, quand on regarde le palmarès des dernières Coupes Davis, les équipes qui gagnent possèdent toujours un top player dans leur rang. Nous, on dit, avec notre équipe super homogène, on a les moyens de tout casser. Mais abondance de biens, parfois nuit. Et là, il y a le job d'Arnaud Clément est 10 fois plus difficile que le job du capitaine britannique, parce qu'il doit trancher et il a plus de chances de se tromper.
Bah, c'est-à-dire que le capitaine britannique, a priori, va mettre Andy Murray. Il y a des chances.
Mais lui, oui, il a rien à faire. Il est en pilote automatique.
Oui, il est en pilote automatique. Mais juste une toute petite question, très très vite. Joe Wilfried Tsonga qui dit « Malheureusement, je décide pas de tout », ça veut dire quoi?
Je pense que la DTN et la Fédération ont un rôle important à jouer. On sait qu'Yannick Noah, parfois, avait des problèmes relationnels avec les dirigeants de la Fédération Française de Tennis. C'est compliqué à mettre en place, c'est compliqué. Même si on s'appelle Noah, on rentre pas comme ça dans un moulin. Il faut des bristoles.
Merci beaucoup Eric Salut, on va suivre ça de près, donc pas de voyage en Australie en mois de septembre puisque pas de quart de finale de Coupe Davis pour cette
pour
équipe
la santé,
de France.
C'est mieux pour la santé.
Voilà, exactement. Lui, il est en voyage plus près, à Gap, c'est Christophe Cessieux.
Oui, le Tour d'Australie, c'est pas pour aujourd'hui. Il y en a un au
Down
début
under,
de la saison,
ça.
Mais le Tour Down Under, exactement. Là, là, mais notre grimpeuse, elle est au top.
Oh, bah là.
Virginie, évidemment, meilleure grimpeuse du Tour de France. On va revenir dans quelques instants avec toute la bande, avec Luc, avec Thierry et avec Cyril Guimard sur cette 16e étape du Tour de France remportée par l'Espagnol Ruben Plaza et la deuxième place de Peter Sagan. C'est lui qui a fait le show, mais une nouvelle fois, il termine deuxième de l'étape. Le maillot jaune, lui, est toujours sur les épaules de Chris Froome, mais il a un peu perdu des plumes. En tous les cas, certains de ses équipiers. On reparle de tout ça juste après les infos de 19h. Le débat jusqu'à 20h. À tout de suite.
RMC Intégral Tour.